Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Rendez-vous incontournable sur Radio de la Paix, votre magazine Economia, le Fonds monétaire international, a octroyé à la Côte d'Ivoire 758 millions de dollars américains, soit plus de 428 milliards de francs CFA, et cela au terme de la quatrième revue des accords sur le mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit, ainsi que la troisième revue de la facilité pour la résilience et la durabilité en faveur donc de la Côte d'Ivoire. Avec Fossey Onozon, nous analyserons les éléments du succès du pays et la suite de la collaboration avec le FMI. Autre articulation de cette émission, c'est la rubrique itinéraire avec une promotrice de radio à Lakota, Isha Dosso, que nous découvrirons. Mais avant, explication de certains termes dans le lexique économique.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Le mécanisme élargi de crédit.
Le mécanisme élargi de crédit est un instrument financier du Fonds monétaire international qui est destiné à aider les pays membres à surmonter des problèmes de balance de paiement à moyen et à long terme, particulièrement lorsque ces difficultés sont liées à des déséquilibres structurels nécessitant des réformes économiques approfondies.
La balance des paiements.
La balance des paiements est un état statistique qui enregistre pour une période donnée l'ensemble des transactions, donc des échanges économiques, entre les résidents d'un pays et les non-résidents. Elle reflète donc les relations financières et économiques d'un pays avec l'extérieur.
La facilité élargie de crédit.
C'est un apport, donc une aide financière à moyen terme aux pays à faible revenu qui connaissent donc des difficultés prolongées de balance de paiement. Et donc la facilité élargie de crédit est l'un des mécanismes du fonds fiduciaire du FMI pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance.
La facilité pour la résilience et la durabilité.
La facilité pour la résilience et la durabilité offre un financement abordable et à long terme, permettant à des pays engagés dans des réformes de réduire les risques pour la stabilité future de leur balance de paiement, notamment des balances de paiement liées aux changements climatiques et aux pandémies.
Regard sur la gestion économique nationale.
Monsieur Fossey Onozon, bonjour.
Bonjour, monsieur Koumé.
La Côte d'Ivoire reçoit encore un soutien de Fonds monétaire international. Plus de 428 milliards de francs CFA étaient octroyés à la Côte d'Ivoire par cette institution financière de Bretton Woods. Et cela après donc plusieurs mécanismes, par exemple le mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit, et puis aussi la facilité pour la résilience et la durabilité, qui sont des conditionnalités pour bénéficier donc de ce soutien du FMI. Pour commencer, le mécanisme élargi de crédit, qu'est-ce que c'est concrètement?
Le mécanisme élargi de crédit relève de nos organismes financiers internationaux, notamment le Fonds monétaire international. Ce mécanisme met l'accent sur ce qu'on appelle des accords d'une durée de plusieurs années, et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la durée c'est de 40 mois, et suite à cet accord, vous accorde un prêt qui devrait vous permettre de rehausser très sensiblement vos pouvoirs en matière de gestion de vos déséquilibres macroéconomiques. Donc, que ce soit le mécanisme élargi des crédits et la facilité élargie des crédits, ces deux accords ont pour objectif de mettre l'accent sur la gestion des déséquilibres macroéconomiques. Vous savez que après le Covid-19, il appartenait aux organismes financiers internationaux tels que le FMI et puis la Banque mondiale, mais pour le cas des CET et surtout le Fonds monétaire international, de mettre l'accent sur une aide qui devrait réduit sensiblement les problèmes liés aux déséquilibres macroéconomiques. Et c'est ce qui a été fait.
Alors donc, le mécanisme élargi de crédit fait partie donc de l'accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Que comprendre par ce terme utilisé par le FMI?
L'objectif essentiel, c'est de permettre à notre pays de gérer au mieux les relations financières avec l'étranger. Et la gestion de ces relations financières avec l'étranger met l'accent sur tout ce qui est stabilité en matière de balance des paiements. C'est-à-dire, c'est d'éviter à notre pays une cessation en termes de paiements extérieurs. La cessation, c'est quoi? Lorsque vous n'avez plus de liquidité en termes de devises, il vous sera très difficile d'assurer la gestion de vos activités d'importation. Or, si vous ne pouvez pas importer, c'est que votre économie est en train de traverser des difficultés assez importantes et qui pourraient mettre à péril ce qu'on appelle en économie la gestion du solde monétaire de la balance des paiements.
Alors, mais tout cela, pour ceux qui ont encore de la mémoire, que nous parlons de FMI, on parle aussi des ajustements structurels. Est-ce que ce n'est pas une autre manière de revoir donc la politique d'aide au pays avec ces termes qu'on entend, mécanisme élargi de crédit, facilité élargie de crédit, qui font partie des conditionnalités pour que les pays en bénéficient? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'économiste?
Oui, je pense que ce sont, comme le nom l'indique, ce sont des facilités qui devraient permettre, d'une manière ou d'une autre, de réduire sensiblement les déséquilibres macroéconomiques.
En économie, quand nous parlons de facilité, qu'est-ce qu'on doit entendre par là?
En termes de facilité, il faut attendre une aide assez importante pour permettre aux paramètres macroéconomiques d'être assez cohérents. Vous savez qu'en économie, l'objectif essentiel, c'est de mettre l'accent sur la fonction de production. Et qui parle de fonction de production, parle de variation des fonctions de production. Et qui parle de variation des fonctions de production, parle d'une croissance macroéconomique. Et un pays qui connaît une croissance macroéconomique est un pays, logiquement, qui se porte bien, c'est-à-dire dont la richesse augmente sensiblement. Et c'est ce qu'on recherche à travers toutes les politiques économiques et financières. Alors, dès lors où on sent que vous allez avoir des difficultés, dû par exemple à des chocs externes ou bien même à des pandémies telles que nous avons connues, mais il va sans dire qu'il faut venir en aide à ce pays-là pour qu'il puisse réduire sensiblement les déséquilibres macroéconomiques qui vont venir après. Parce que là où il y a des difficultés, il y a forcément des déséquilibres macroéconomiques. En économie, lorsque votre fonction de demande globale connaît une hausse importante, la même manière que le solde des exportations et importations, si ce solde connaît aussi une allure positive, mais il va sans dire que vous allez connaître une augmentation du niveau de votre production nationale. Mais c'est ce qu'on recherche. Mais lorsqu'on sent que vos paramètres macroéconomiques ont des difficultés, c'est-à-dire l'investissement diminue et puis la consommation aussi baisse, si on ne vous vient pas en aide, mais cela va réduire sensiblement les déséquilibres macroéconomiques. Mais c'est pourquoi on s'adresse à ces structures-là, telles que le Fonds monétaire international qui a mis pour la circonstance sur pied certaines dispositions pratiques qui relèvent d'un accord d'une durée de quelques années. Et suite à cet accord, il y a bien entendu un montant qui est alloué au pays en plusieurs sens pour lui permettre de gérer au mieux ses difficultés en matière d'exécution macroéconomique.
Justement, on parle du fait que la Côte d'Ivoire ait respecté l'exécution du programme, donc avec un ensemble de critères. Quels sont les critères éventuellement à respecter lorsqu'on a un accord donc, de cette nature avec le FMI?
Ah oui, les critères respectés sont des critères qui sont d'ailleurs connus pour pouvoir mettre sur pied ces accords-là. Parce que d'abord, je vais vous dire, avant même de parler des critères, ces accords ont pour but de soutenir tout ce qui est transformation économique de notre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, vers le statut des pays à revenus intermédiaire de la classe supérieure et tout en stabilisant la stabilité macroéconomique. Alors, stabiliser la stabilité macroéconomique revient à mettre l'accent sur la gestion optimale de l'investissement. Parce que sans investissement, on ne peut pas partir à une variation positive de la production nationale. Et ça, la Côte d'Ivoire l'a fait. L'autre objectif, c'est de mettre l'accent sur la consommation. Et la consommation aussi, ces dernières années, depuis pratiquement 15 ans, a connu une variation largement positive. C'est-à-dire qu'on va vers le plein emploi des facteurs de production. Donc, il y a ces éléments qui sont des éléments importants. Et au-delà de ces deux paramètres que j'ai cités, il y a le solde du commerce extérieur qui, logiquement, devait être positif. Et la Côte d'Ivoire a connu un solde du commerce extérieur largement positif depuis bientôt 15 ans.
Alors, donc, quand nous parlons du respect de certains critères par la Côte d'Ivoire, on dit des efforts soutenus donc sont prévus de la part des autorités en vue d'augmenter, par exemple, le ratio recette fiscale PIB de 0,5% du produit intérieur brut chaque année jusqu'en 2026 et atteindre environ 20% du PIB donc à moyen terme grâce à des réformes pérennes, par exemple de la politique fiscale. C'est un élément important pour le FMI, la mobilisation donc de la fiscalité dans les pays pour ne pas trop dépendre des aides, c'est cela?
Oui, effectivement, il y a des efforts soutenus qui sont prévus de la part de nos autorités visant à augmenter le ratio recettes fiscales sur PIB de 0,5% et puis ensuite d'une augmentation régulière du PIB chaque année aussi. Et donc, toutes ces informations sont respecter de la manière la plus cohérente qui soit par la Côte d'Ivoire. Elle doit là où respecter toutes ces informations. Je vais même encore un peu plus loin. Vous voyez, en 2025, le déficit courant devait se réduire à 3,6% du PIB. Et le déficit budgétaire devait respecter un plafond de 3% du PIB, si c'est pas le mois. Donc c'est autant d'informations, autant de dispositions pratiques qui devaient être respectées, qui sont d'ailleurs respectées. C'est pourquoi il y a eu une autre en matière de mécanismes élargis des crédits et puis en matière aussi des facilités élargies des crédits.
En tout cas, un élément aussi important pour le FMI aujourd'hui, c'est l'économie verte hein, qui fait partie de ce programme avec plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, c'est un créneau économique à exploiter, l'économie verte?
Ben oui, l'économie verte, l'objectif est de protéger la nature. C'est pourquoi on parle de durabilité d'ailleurs. Parce qu'il y a des difficultés climatiques. Nul n'est censé ignorer ces pluies, ces averses que nous recevons, qui entraînent malheureusement des morts un peu partout. C'est un peu ça aussi, les difficultés climatiques. C'est pourquoi il faut faire des efforts en matière de durabilité. Il faut qu'il parle de durabilité, parle d'économie verte. Aujourd'hui, par exemple, dans nos pays où on produit du café et du cacao, on nous demande de ne plus faire des cultures subventionnées afin que les quelques forêts qui nous restent soient régénérées pour permettre à l'économie verte de se développer.
Plus de 428 milliards de francs CFA qui vient s'ajouter à ces autres prêts concédés à la Côte d'Ivoire. Faut-il craindre donc un surendettement du pays?
Non, le surendettement, c'est lorsqu'un pays n'est plus capable de payer l'endettement dont il a bénéficié par le passé. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit à ce stade-là. Et à ce que je sache, on a toujours respecté les ratios dette sur PIB, dont le ratio ultime est de près de 70%. Et je crois que nous sommes nettement dessus de 70%. Et puis, la Côte d'Ivoire rembourse régulièrement et les dettes qu'on a dû lui octroyer, que ce soit dans le cadre du Fonds monétaire international ou bien dans le cadre de la Banque mondiale. Donc, il n'y a pas de surendettement à mon sens, en tant que tel, dans la mesure où nous payons largement nos crédits, dans la mesure où nous n'avons pas dépassé les ratios dette sur PIB. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau.
En tout cas, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin, selon le constat fait par le Fonds monétaire international. La preuve, 428 milliards de francs CFA au terme donc de la troisième revue hein, de ce programme, la facilité pour la résilience et la durabilité. Merci à vous, M. Faustin Ndozon, pour ces éclairages.
Merci, M. Koumé.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Aïcha Dosso est directrice de radio. Aïcha Dosso, c'est la promotrice de radio, déléguée régionale de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire et aussi coordonnatrice de la section Radio Santé Côte d'Ivoire du Lot-du-Bois.
Vous l'avez compris, elle se présente elle-même. C'est une promotrice de radio, une consoeur qui est interrogée par Abel César Cassin et qui nous permet de découvrir cette passionnée du micro. Suivons l'entretien.
Avant d'être promotrice de radio, on vous a connu au cours des cérémonies tenant le micro.
Oui, effectivement, avant d'être directrice de radio, promotrice de radio, j'étais donc gérante d'une vidéothèque et tout juste à côté de cette vidéothèque-là, il y avait un studio. Ce studio-là, le propriétaire que je connaissais bien lorsqu'il sortait, il voulait à chaque fois que je puisse l'accompagner. Et je partais, je m'essayais au micro, tout et tout. Et c'est comme ça que j'ai aimé véritablement l'animation. Et quand la radio Lokoda, ils sont venus donc installer cette radio ici, j'ai tout fait pour pouvoir être dans cette radio grâce à M. Mané. Et puis voilà, au fur et à mesure, je m'essayais. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais.
Quelle formation avez-vous reçue?
J'ai pas reçu de formation en tant que telle. J'ai pas fait d'école de communication. J'ai appris sur le tas. Et grâce aux formations de l'ONU ici, grâce aux formations avec l'UNICEF, avec même notre fêtière, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, plein de séminaires, ça m'a permis d'être formé. Mais comme moi je dis toujours, la formation continue toujours parce que on ne finit jamais d'apprendre, surtout en matière de communication.
Vous êtes une femme battante, vous êtes une autodidacte. Il nous est revenu également que dans votre première radio, vous étiez la secrétaire.
Oui, effectivement, j'ai démarré à la radio Lokoda Koda en tant que secrétaire animatrice. Et d'animatrice, j'ai aussi occupé le poste de responsable du personnel, directrice de programme. Et voilà, en 2008, le maire d'alors, le maire Zébi Grokrou, m'a donc nommé directrice de la radio. Et ce, jusqu'aux événements de 2011, où après, l'ONUCI est donc venue réhabiliter cette radio. Et il faut dire que j'ai quitté la radio en 2021.
Comment vous est-il venu l'idée de créer une radio?
Il faut dire que durant tout le temps que j'ai passé sur la radio communale, j'ai remarqué que c'était juste pendant les campagnes de vaccination, quand il y avait peut-être une action que certaines personnes devaient mener par rapport aux enfants, par rapport aux femmes, que venaient faire leur communiqué, venaient faire passer leur spot. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas créer une radio aussi pour pouvoir passer uniquement que ce message aussi sur une station de radio. Et voilà, 2021, je dis bon, voilà, moi je crée ma radio pour les femmes et pour les enfants. Et c'est ce que j'ai fait.
Et quel est le nom de votre radio?
La radio, c'est Radio Mère Enfant. Radio Mère Enfant, parce que comme je le disais tantôt, au vu de plusieurs constats hein, concernant les femmes, les enfants, tout ça, je me suis dit, je vais créer cette radio et puis donner le nom Mère Enfant.
C'est assez singulier, Mère Enfant. Quel est le contenu de vos émissions?
La thématique même de la radio, c'est la santé mère-enfant. Mais c'est comme toute radio. Nous faisons un peu de tout. Hein. Ici, il y a le journal. Nous avons des émissions à thème. Nous faisons également des productions. En fait, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus sur la santé mère et enfant. Et il faut dire qu'avec tout ce que nous faisons ici, vraiment, au vu des échos, les mères, les enfants, ça va aujourd'hui.
Est-ce qu'il y avait un problème particulier concernant cette frange de population?
Pas un problème particulier, mais comme je l'ai dit, nos mamans, il faut à chaque fois leur rappeler, par exemple, qu'elles fassent leur CPN, c'est-à-dire les consultations prénatales, qu'elles allaitent leurs enfants jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire l'allaitement maternel exclusif. Mais quand on ne leur, entre guillemets, chante pas ça à chaque fois, ça devient un souci. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en donnant la vie. Donc, je me suis dit, bon, avec cette radio, on pourra beaucoup faire plus de sensibilisation. C'est vrai qu'on va faire les autres émissions, mais on va axer nos émissions beaucoup plus sur des sensibilisations pour ces moments-là et puis surtout même pour les papas. Parce que vous savez que quand maman se porte bien, quand l'enfant se porte bien, papa aussi se porte bien, parce que là, il ne dépense pas.
En quelle langue se fait cette sensibilisation?
On a la langue locale, le dida, le français, le bété, le malinké, le guéré, le gouro. Vraiment presque toutes les langues.
Est-ce que les autorités de la santé s'intéressent vraiment à vos activités, vous sollicitent?
Oui, bien sûr. Je suis même partenaire du district sanitaire qui nous envoie à chaque fois des personnes pour parler de santé avec des thèmes bien précis. Lorsqu'il y a des campagnes de vaccination, nous allons sur le terrain également avec ces personnes-là pour pouvoir faire des reportages.
Quand je suis entré ici tout à l'heure, j'ai vu du personnel. Cela veut dire que vous donnez de l'emploi, de l'occupation à certains jeunes. Combien de personnes employez-vous?
J'ai 8 personnes à qui on donne des formations, tout et tout. Mais il faut dire qu'ils ne sont pas les seuls, parce que les jeunes qui s'intéressent à la communication, on essaie véritablement de les aider.
Est-ce que vous avez une subvention particulière? Vous avez des mécènes qui soutiennent le fonctionnement de cette radio?
La radio Mère Enfant n'a aucune subvention. Je travaille juste avec les partenaires qui veulent bien m'accompagner. Et nous sommes en train de batailler dur pour pouvoir rencontrer Monsieur le Président du Conseil Régional du Lot-du-Bois, le ministre Amédée Kouakou.
Comment arrivez-vous à faire fonctionner cette radio?
Il faut le reconnaître. Je fais fonctionner la radio de mes propres fonds. Et puis quand il y a des petits communiqués, certains spots, on essaie de gérer véritablement la radio avec ça. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais comme moi je le dis, quand Dieu est au-devant de toutes choses, ça évolue.
Mis à part l'argent pour faire fonctionner la radio, quels sont vos autres besoins?
On a besoin donc de matériel roulant pour pouvoir véritablement aller vers nos mamans dans les villages. On a aussi besoin de formation et puis on a vraiment besoin de matériel. Et merci à toutes nos autorités administratives, politiques, coutumières. Merci également au président du conseil régional du Lot-du-Bois, le ministre Amédée, qui a décidé d'aider les radios du Lot-du-Bois. remerciement particulier à Radio de la Paix, vous qui avez décidé, hein, voilà, de pouvoir faire cet entretien avec nous.
Aïcha Dessour, je vous retourne les remerciements envers la Radio de la Paix.
Voilà, merci à Abel César Cassin qui nous a permis de découvrir Aïcha Dosso, promotrice de radio du côté de Lakota. Et c'est ce qui met un terme donc à cet Economia. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.